poussière et granit. Présenté par Christian Delors.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus 103.2 FM, DAB+, et notre site internet radioallianceplus.fr. Voici Poussière et Granit, au micro Christian Delors et à la technique Louis Esparcel. L'émission commence aujourd'hui avec un moment d'histoire. Quel fut l'apport des Huguenots à la naissance de la nation américaine ? Un bref moment concerne ensuite le sort d'une église protestante en Iran. Puis c'est la présentation du nouveau président de la mission populaire évangélique, le pasteur Didier Crouzet. Enfin, avant l'annonce de la parution d'un nouveau livre sur l'épître de Paul aux Romains, un agenda fourni de diverses rencontres, conférences, concerts, ces prochaines semaines dans les Cévennes. Au moment où se prépare cette émission, les États-Unis commencent à célébrer le 250e anniversaire de leur indépendance en 1776. Je voudrais donc commencer cette émission avec un peu d'histoire. L'hebdomadaire Réforme a publié depuis plusieurs années divers articles sur la naissance des États-Unis et a consacré un dossier à cet anniversaire dans son numéro 4144 du 2 juillet dernier. Voici par exemple des extraits particulièrement intéressants d'un article de l'historien Thomas Constantini. Rappelons d'abord que les descendants de Huguenots ne représentent sans doute que 1% de la population des colonies américaines en 1776. Issus du premier refuge et du grand refuge des XVIe et XVIIe siècles, leurs familles sont rarement arrivées directement sur les côtes américaines. Dès le début du XVIIIe siècle, l'assimilation accélérée est en cours. Adoption de l'anglais, mariage en dehors de la communauté française, passage à l'anglicanisme ou à d'autres églises protestantes. Pourtant, une certaine mémoire se maintient et les Huguenots vont contribuer à façonner la jeune nation américaine. Quel rapport les États-Unis entretiennent-ils avec la religion et le protestantisme en particulier ? Sur les 13 colonies signataires de la Déclaration d'indépendance, plusieurs courants du protestantisme sont représentés. Savez-vous lesquels ? Selon Bertrand van Rienbeck, l'historien et professeur de civilisation et d'histoire des États-Unis à l'Université de Paris 8, Vincennes, Saint-Denis, la religion n'est pas un moteur de la révolution américaine, mais elle est présente. Voici une brève histoire de trois des premiers Huguenots. John Jay, 1745-1829, l'homme d'État fédéraliste. Né à New York dans une famille huguenote aisée, originaire de La Rochelle, G est très conscient de ses origines. Après de brillantes études de droit, il devient avocat dans sa ville natale. Les empiètements des autorités britanniques sur les libertés des colonies vont progressivement le pousser dans le camp de l'indépendance. Élu au Congrès continental qu'il préside en 1778-1779, il est bientôt chargé de chercher l'alliance avec la France et l'Espagne contre le Royaume-Uni. Après la guerre, il prend la main sur la diplomatie américaine en tant que secrétaire des Affaires étrangères, aujourd'hui secrétaire d'État. En 1789, George Washington en fait le premier Chief Justice, président de la Cour suprême. Parallèlement, il se voit confier des missions diplomatiques. Engagé dans le débat constitutionnel, Jay est l'un des auteurs, avec notamment James Madison, futur quatrième président américain de 1809 à 1817, des Federalist Papers, 1787-1788, un manifeste politique américain majeur en faveur d'un pouvoir fédéral fort qui reste une référence aujourd'hui. Jay se distingue en soutenant, autant que possible, l'abolition de l'esclavage. Défenseur d'une identité américaine basée sur le protestantisme, il sera aussi l'un des fondateurs de la Société biblique américaine. Quant à son petit-fils John Jay, II, il sera en 1883 à l'origine, avec d'autres, de la Huguenot Society of America. Et puis il y a Paul Revere, 1734-1818, le cavalier de la liberté. Né le 21 décembre 1734 dans le quartier de North End à Boston, Paul Revere est le fils d'Apollos Rivoire, huguenot français de Guyenne, émigré à 13 ans. Arrivé à Boston, Apollos anglicise son nom en Paul Revere et s'impose comme orfèvre réputé. Paul Revere reprend l'atelier paternel et le développe. Artisan engagé, il fait partie des premiers cercles à contester la tutelle britannique et utilise ses gravures pour mobiliser la population des colonies. Il rejoint l'organisation secrète des Fils de la Liberté et prend part à la Boston Tea Party en 1773. Le 18 avril 1775, apprenant que les Britanniques marchent sur Lexington et Concord pour s'emparer de chefs patriotes et de munitions, Revere prend son cheval dans la nuit pour alerter les milices patriotiques. Cette chevauchée de minuit va entrer dans le roman national américain. Après la guerre, Revere ouvre une fonderie où il développe la fonte de cloches, de canons et d'objets d'utilisation courante. Cette entreprise marque une étape dans l'industrialisation de la côte Est. Parmi les premiers à employer des salariés, Paul Revere crée une forme de dialogue social. Franc-maçon, il devient grand maître de la Grande Loge de Massachusetts en 1795. Homme aux multiples talents, Paul Revere porte en lui l'héritage des réformés français, travail bien fait et amour de la liberté. Et puis il y a Elie No, l'ex-galérien qui évangélisa les esclaves de New York. Né en 1662 en Saint-Onge, Elie No devient marin. L'accroissement des persécutions le pousse vers Boston, puis vers New York. Naturalisé britannique, il devient un marchand prospère, commandant d'un navire. En 1692, il est capturé par un corsaire français et ramené en France où, refusant d'abjurer, il est condamné aux galères, puis emprisonné dans le Midi. Son sort va émouvoir et une campagne internationale obtient sa libération en 1697. Revenu en Amérique, No souhaite servir Dieu et rejoint les rangs de l'Église anglicane, dite épiscopalienne aux États-Unis, après l'indépendance. Il va y devenir catéchiste. En effet, l'ancien galérien est ému du sort des esclaves, nombreux à New York. Il se voit confier la tâche d'instruire les esclaves africains de New York dans la foi chrétienne. Malgré les réticences de nombreux propriétaires qui craignent que le baptême ne remette en cause l'esclavage, il ouvre une école où plusieurs centaines d'hommes, de femmes et d'enfants reçoivent un enseignement religieux. No ne remet pas en cause l'esclavage directement, mais il affirme que le message de Christ doit être accessible à tous. Depuis 2024, son nom figure dans le calendrier liturgique de l'Église épiscopalienne des États-Unis sous le titre « Témoin huguenot de la foi ». Moyen-Orient. C'est aussi l'hebdomadaire Réforme qui nous propose cette information à propos de l'Iran. Une église protestante détruite en Iran. Le Conseil œcuménique des Églises a exprimé sa vive inquiétude le 18 juin après la démolition de l'église évangélique historique de Machad en Iran, ainsi qu'au sujet des informations faisant état d'une intensification des pressions exercées sur le synode évangélique d'Iran, église réformée presbytérienne, membre de la communion mondiale d'églises réformées et ses institutions. Le Conseil œcuménique des Églises exhorte également les autorités à assumer leur responsabilité de protéger les droits, les biens et le patrimoine religieux de toutes les communautés religieuses reconnues dans le pays, conformément aux obligations nationales et aux normes internationales en matière de droits humains. Mission populaire. Voici une information qui nous est communiquée par l'hebdomadaire Réforme dans son édition du 29 juin dernier. L'histoire entre Didier Crouzet et la Mission populaire évangélique de France est ancienne. Tout a commencé alors que le nouveau président étudiait la théologie. Après avoir découvert les fraternités dans les années 1975-1980, il devient animateur d'un groupe d'enfants. Depuis, il est toujours resté en contact avec celle que tous surnomment la Miss Pop. Dans sa présentation dans Présence, le journal du mouvement, il explique que c'est grâce à elle qu'il a appris à être pasteur et le partage de l'Évangile avec le plus grand nombre. Pasteur à la Fraternité de Nantes de 1982 à 1991, Didier Crouzet rejoint ensuite la Nouvelle-Calédonie en tant que pasteur enseignant. Il rentre en métropole en 1995. En poste à l'église réformée de Grenoble, Didier Crouzet prend de nouvelles responsabilités en 2004 en devenant responsable des relations internationales à l'église réformée de France. 9 ans plus tard, il négocie un dernier virage professionnel en devenant secrétaire général de l'église protestante unie de France. 4 défis. Retraité depuis 2022, le nouveau président de la Mission populaire prend ses fonctions avec humilité. Si le fond et les valeurs du mouvement sont identiques à celles qui l'ont séduit, sa forme a changé. Depuis les années 1980, les pasteurs ont peu à peu été remplacés par des personnes venues d'horizons variés. Une richesse sur laquelle le nouveau président compte bien s'appuyer pour relever 4 défis. Le renforcement de la cohésion du mouvement, un meilleur accueil et une meilleure formation des bénévoles, un nouveau modèle économique face à la réduction des subventions. Enfin, Didier Crouzet souhaite renforcer l'ancrage protestant de la Mission populaire, un savant mélange de retour aux sources et d'adaptation. C'est Valérie Rodriguez qui est secrétaire générale depuis 2023. Et voici maintenant quelques rendez-vous culturels pour les semaines qui viennent, rencontres, expositions, concerts, conférences. Au Musée du Désert à Mialet, conférence, mercredi 30 juillet à 18h30, ces protestantes qui ont fait l'histoire, portrait au fil des siècles, par la théologienne Valérie Duval-Poujol. Mercredi 5 août à 18h30, André Chanson ou la puissance du natif, avec Catherine Vivelle, sa petite-fille qui lira des extraits de l'œuvre d'André Chanson. Mercredi 12 août à 18h30, La petite cuisine du désert, 1 heure avec Lionel Astier, acteur bien connu. Mercredi 19 août à 18h30, La grande peste de 1720 et les protestants, par l'historien André Mouisset. Spectacle son et lumière. Les lanternes de l'exil, jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 juillet, à 18h30. L'assemblée de l'Hospitalet, qui aura lieu le dimanche 26 juillet, au lieu dit l'Hospitalet, 48110 Le Pompidou, départemental D9, culte à 10h30 et conférence à 14h. Une mémoire protestante pour boussole, par Daniel Travier, fondateur de Maison Rouge, musée des Vallées Sévenoles. Au temple de Valrogue, concert dimanche 26 juillet à 18h, ensemble Antares sous la direction de Roxane Vega. exposition de photos au temple de Valrhog du 1er au 23 août, vendredi 10-12 heures et samedi 10-12 heures et 17-19 heures. Au temple de Mio, concert le samedi 22 août, théorbe, violon et violoncelle, chant polyphonique traditionnel par le trio E égale MC2. Méruès, concert le vendredi 7 août à 21h au temple, ensemble de flûtes classiques et contemporaines. Journée handicap et inclusion, dimanche 9 août à 10h30 avec Guillaume de Clermont, directeur général de la Fondation John Bost. Au temple du Vigan, le 30 juillet à 18h30, concert d'orgue. Au temple de Saint-Jean-du-Gard, concert d'orgue le 12 août à 18h30 avec Thierry Martin. Au temple de Mialet, le 6 août à 20h30, concert Old Time Folk Music. Et 20 août à 20h30, les canons du Mazel. 24 août à 20h30, musique et chant du Moyen-Âge par le chœur Guila. Temple de Saint-Hippolyte-du-Fort, 6 août à 19h, concert d'orgue avec Alain Bernadac. Temple de Vézénobre, exposition des œuvres de Henri Lindegarde, du 17 juillet au 16 août, vendredi, samedi et dimanche, 10h-13h et 16h-19h. Toutes ces informations ont été glanées dans le cahier numéro 1 du magazine Le CEP Prêche Régionale Protestante, mois de juillet-août 2026. Il me reste 2 minutes pour vous proposer ce message de la part des éditions Olivetan. Et si on profitait de l'été et du temps qu'il dégage pour s'immerger dans un livre biblique particulièrement important pour la foi chrétienne, l'Épître de Paul aux Romains? Olivetan vous y invite avec l'ouvrage nouvellement paru de Yann Morvan, Une dot de sang, l'Évangile comme alliance nuptiale dans la lettre de Paul aux Romains. Le titre se veut intrigant, voire dérangeant, ce qui est bien en accord avec la façon de Paul. Mais quelle épître ! Elle est ici exposée de manière à faire ressortir la conception paulinienne de l'Évangile et de la grâce surabondante de Dieu. Et si le centre de la lettre de Paul aux Romains n'était pas à trouver parmi ces différents sommets théologiques, mais dans une petite allégorie de 6 versets nichés en son centre? Et si le cœur de l'évangile paulinien n'était pas la justification par la foi, mais une requête intime formulée par Dieu? Et si la mort du Christ ne remboursait pas une dette, mais nous transmettait une dot? Et s'il nous fallait comprendre l'évangile de Paul comme nous comprenons le royaume prêché par Jésus, une bonne nouvelle indissociable de la puissance divine qu'elle manifeste? Telles sont les hypothèses suivies dans cet ouvrage. Le livre offre une compréhension synthétique de l'évangile de Paul. Les thèses de l'Épître aux Romains sont expliquées à partir de leurs arguments, mais elles sont également confrontées aux affirmations des autres lettres de Paul et même comparées à certains propos de Jésus. Cette approche permet au lecteur d'avoir un regard global sur la pensée de l'apôtre et de le situer dans le prolongement de l'enseignement du Christ. Nous allons maintenant terminer cette émission. Je vous rappelle que Poussière et Granit, que vous êtes en train d'écouter, est diffusé le mardi à 7h20, le jeudi à 11h15 et le dimanche à 10h10, juste avant la diffusion du service protestant. Au revoir.